I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Thomas Rozek. Comme tous les vendredis, on sort un peu du cadre habituel de notre rendez-vous pour se confronter à une réalité qu'à peu près tous les gens de ma génération qui ont tenté de trouver un appart dans une grande agglomération connaissent. Les petits arrangements, les petites libertés qu'on se permet parfois sur notre situation personnelle pour répondre aux exigences du marché ultra concurrentiel, voire complètement délirant, de la location. Une fiche de paye qu'on bricole légèrement, un contrat de travail qui passe du CDD au CDI par magie, des feuilles d'impôts un peu regonflées numériquement. C'est très très courant et je suis sûr que si vous ne l'avez pas fait vous-même, c'est forcément déjà arrivé à un de vos proches ou de vos amis. Est-ce que c'est toujours de la fraude quand c'est tout le système qui déconne? Et puis, qu'en pensent les principaux intéressés, les fraudeurs comme les fraudés, et surtout les agences immobilières chargées de récolter le fameux dossier où se regroupent nos documents trafiqués? Ce sera notre épisode du jour, il est signé par Samy Abazi et réalisé par Théo Boulanger. Bienvenue dans Programme B.
Est-ce que ça t'a posé un problème éthique de devoir tricher pour trouver un appartement ?
Franchement, aucun. En plus, quand on cherche, nous aussi on cherche, on se dit pas, tiens, on va se mettre en galère en prenant un appartement trop cher pour nous ou quoi que ce soit. On sait très bien ce qu'on fait, on sait très bien qu'on a toujours payé ce qu'on devait à tout le monde. Moi, le problème, enfin la culpabilité, elle est plutôt du côté des propriétaires, mais surtout des assurances qui assurent ces propriétaires-là et qui leur demandent d'avoir des locataires qui touchent trois fois le montant de loyer, si en cas d'impayé, ils puissent les sauver derrière, quoi.
Est-ce que je culpabilise vraiment de me dire une nana est prise à défaut parce que oui, je lui mens, etc. D'un autre côté, elle veut aussi le beurre et l'argent du beurre. On peut pas entretenir, en fait, ce système où il faut être honnête, il faut donner les bons dossiers, il faut rester 1 000 ans dans un appartement, il faut bien payer son loyer. Enfin, il y a un moment, un peu de flexibilité, quoi.
Si vous vivez dans une grande ville, ou que vous voulez vivre dans une grande ville, vous avez forcément eu affaire à des agences immobilières ou à des particuliers. Vous avez forcément passé des heures sur Le Bon Coin, PAP, Se Loger, et à moins que vous rouliez sur l'or et que vous puissiez prétendre à un loyer de 2000 euros par mois, vous avez forcément dû affronter des hordes de candidats à la location, aussi déterminés que vous, parfois même féroces face à la concurrence. En fait, c'est tellement difficile de répondre aux attentes des propriétaires et des agences, et de se distinguer des autres candidats, que pour décrocher un appart parfois même pas si intéressant que ça, il est devenu monnaie courante de falsifier son dossier. Je n'ai pas de chiffres précis, mais quand j'ai parlé du sujet de ce reportage à mes amis parisiens, moyenne d'âge 25-35 ans, je me suis rendu compte que la moitié au moins avait triché pour obtenir leur logement. Il faut bien avouer que les critères des bailleurs pour choisir un locataire sont assez éloignés de la réalité du marché de l'emploi aujourd'hui. On vous demandera au minimum d'être en CDI, mais pas en période d'essai, sinon ça ne marche pas, de gagner au moins 3 fois le montant du loyer, et beaucoup plus c'est mieux, et d'avoir 1 voire 2 garants, si possible avec un salaire mirobolant, et si possible propriétaire. Donc si vous ne cochez pas toutes les cases de la checklist, et même si vous avez un travail, il vous faudra soit renoncer, soit mentir. C'est le cas de Cathy, qui est revenue dans sa région parisienne natale quand elle a décroché un job à Paris.
Du coup j'ai commencé un CDI à la maison de la radio juste à côté. Et au début, je me suis dit, un peu comme tout le monde, je vais vivre chez mes parents, on verra si ça le fait, si la région parisienne me plaît, si... Puis très vite, en fait, j'en ai eu marre des transports en commun. Donc j'ai voulu prendre un appartement près du taf, sauf que j'étais en période d'essai. Donc là, je me suis dit, je vais partir dans une énorme galère à devoir me justifier. J'ai pas un salaire mirobolant, donc du coup, j'allais galérer à trouver quelque chose d'à peu près potable. Et mon papa m'est venu t'en aide, en fait. Super, génial. Il avait un très bon dossier, il gagne bien sa vie. Et il m'a dit, bah écoute, Cathy, on va te louer un appart à mon nom. J'y croyais pas trop, je savais pas si c'était le bon moment, mais bon, en venant me chercher un soir au boulot, on commence à regarder sur seloger.com, et puis on voit l'appart dans lequel je suis actuellement. Première visite, première recherche en fait, parce que j'avais pas été sur Le Bon Coin, j'avais été nulle part. Et on appelle tout de suite, et l'agent immobilier nous dit « venez visiter ». Et avec mon père, on n'avait pas de modus operandi, on n'avait rien du tout, du coup c'était le premier appart, on savait pas si on devait mentir, si je devais montrer moi mon intérêt ou pas. Donc on visite l'appart, il se trouve qu'il est super chouette. Donc évidemment, mon père et moi, on tombe sous le charme. On dit, bon, bah, c'est lui qu'il nous faut. Il y avait 2-3 autres personnes qui visitaient, des jeunes, essentiellement. Et du coup, l'agent immobilier, super froid, nous dit, bon, bah voilà, vous nous envoyez votre dossier et puis on y va. Moi, mon papa, il m'a jamais pris sous sa coupe, donc en général, c'est moi qui fais les dossiers, il est pas très paperasse, et là, je me dis, bon, bah, vas-y, donne-moi tes fiches de paye, donne-moi, et je constitue le dossier. Mais non, 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 mon père veut pas me dire combien il gagne, donc du coup, c'est lui qui constitue le dossier, et qui envoie tout à la propriétaire, et 2 jours plus tard, elle l'appelle, et elle lui dit, elle est un peu déconcertée, parce que bon, c'est un 30 mètres carrés, il est assez girly, il y a un lit suspendu, avec une hauteur sous plafond de 1m20, je dirais. Mon papa, il fait 100 kilos, clairement, il dormirait jamais dans un lit suspendu. Et du coup, la proprio, elle trouve ça bizarre qu'un homme veuille louer un appartement alors qu'il aurait peut-être les moyens d'acheter sur Paris, et surtout qu'il est domicilié en région parisienne, donc vraiment scénario improbable. Mais bon, il arrive à l'amadouer, et finalement, ça le fait. Et en fait, aujourd'hui, on est encore persuadé qu'elle pense que c'est sa garçonnière. Et donc du coup, elle nous a fait emménager, mon père a fait l'état des lieux tout seul. Mon père a pas loué d'appart depuis 30 ans, donc en fait, il y a des trucs improbables comme je paye pas encore l'électricité parce qu'il est persuadé que c'est compris dans les charges, et j'ai beau lui dire qu'il faut le déclarer, il le fait pas. Mais il faut qu'il demande à la proprio, parce que moi j'ai pas le contact de la proprio, enfin c'est un peu improbable. Et donc du coup, mon père fait l'état des lieux, j'arrive à la fin pour dire « Ah, papa, super, tu t'es bien installé, je vais te donner des conseils pour faire la bouffe », en inventant un gros mytho. Et puis, la proprio éclate de rire et puis elle dit « Ah, mais vous êtes sa fille !» L'agent immobilier était persuadé que vous étiez sa maîtresse, en fait. Et que, monsieur louait l'appartement pour être en couple avec sa maîtresse sur Paris une fois de temps en temps. Bon, très bien, super gênant, parce que bon, voilà, c'est mon papa. Et en fait, il m'a raconté que pendant tout le moment où on a essayé de louer l'appart, la nana lui a fait, pas des avances, mais elle lui a fait des grosses blagues du style « Vous savez, le lit suspendu, il supporte au moins 3 personnes, hein, hyper sexuel. » Et donc voilà, encore aujourd'hui, elle croit que c'est lui qui vit dans l'appartement, alors que franchement, quand on rentre dedans, on sait très bien que c'est une nana qui vit, quoi. Après, la question, c'est est-ce que si ça se sait, c'est très grave ? Je suis pas sûre, parce que même si ça, c'est de la sous-location, ça reste dans la famille, et en fait, on pourra pas prouver que je paye mon père tous les mois.
Qu'est-ce que ça t'a fait, en fait, de devoir mentir pour trouver un appart, alors que t'as un travail, que tu es en mesure de payer ton loyer, puisque tu le payes, en fait, justement ?
Je sais pas si c'est vraiment le fait de mentir ou pas, mais dans cet appartement, j'ai souvent eu l'impression que soit je le méritais pas, soit c'était pas vraiment le mien. Et donc j'ai eu du mal à me sentir chez moi. Aujourd'hui, ça fait presque 6 mois que j'y vis, et je commence tout juste à me dire « Bon, vas-y, pose-toi, dis-toi que ta vie, elle est ici maintenant, et que, quoi qu'il arrive, c'est là où tu vis, en fait. Donc autant te mettre à l'aise, amener de la déco, etc. » Après, j'étais très au fait avec le marché immobilier à Paris. Moi, j'avais besoin d'une situation, pas d'urgence, mais de très rapide. Et c'est surtout pour ça, en fait, qu'on a menti. C'est-à-dire que, pour moi, c'était vraiment une solution provisoire. Et le fait est que dans ma vie, les choses vont peut-être bouger ou pas, et que je compte pas rester dans cet appart indéfiniment. Donc, c'est pas comme si je cherchais quelque chose pour m'installer pendant 3 ans. Si je fais ça, je pense que j'essaierai de faire les choses de manière un peu plus réglo. Parce que moi aussi j'ai envie de mettre mon appart sur Airbnb, parce que j'ai envie de demander à mon proprio quoi que ce soit, s'il y a un souci. Enfin là je me faisais la réflexion ce matin, si jamais j'ai un dégât des eaux, il faut que mon père vienne, il faut qu'il appelle la proprio, il faut que je parte, sauf que si la proprio vient dans l'état actuel des choses, elle se rendra bien compte que c'est pas lui qui vit là. Donc c'est pas très confortable. Après, vis-à-vis de mon travail et de mon salaire, je crois que je me suis faite à l'idée que de toute façon je pourrais rien avoir de bien avec ce que je gagne, et du moins officiellement. Oui, évidemment, on devrait pouvoir se loger avec un salaire quand on a un travail, surtout un CDI. D'un autre côté, je me suis tellement faite à l'idée que je me pose même plus la question, en fait.
Comme Cathy, beaucoup de candidats à la location ne tergiversent pas quand il s'agit de constituer un dossier. Mentir, c'est une évidence. Inutile de perdre son temps dans des visites qui n'aboutiront à rien, parce qu'on n'a pas exactement le bon profil. Alors, pour une visite, on change d'identité. On transforme un CDD en CDI, on gonfle un salaire, on change un nom sur un avis d'imposition, et le tour est joué. Pour ça, il faut bien sûr le secours de Photoshop, mais aussi souvent d'une personne bienveillante. Ça peut être un parent, comme pour Cathy, un ami qui accepte de prêter ses fiches de paye, ou bien un employeur sympa qui accepte de jouer le jeu. C'est la situation dans laquelle s'est retrouvé Frédéric, un journaliste pigiste qui perçoit le chômage. Il m'a raconté comment il a monté un faux dossier avec ses futurs colocs et comment ils ont dû, un beau jour, appeler leur faux employeur à la rescousse.
On était en colocation à deux et on a décidé de passer à trois avec une coloc qui trouvait son premier job donc à Paris. Donc on s'est dit, voilà, on va chercher un trois chambres à Paris et dans les environs. Le problème, c'est que on savait que pour rentrer dans les cases des agences immobilières, on n'allait pas réussir, vu que un est journaliste pigiste, donc il travaille à la mission, il n'a pas de contrat à durée indéterminée ou quelque chose comme ça. Moi, je suis au chômage, donc je touche l'aide retour à l'emploi, mais ce qui ne convient pas non plus aux agences immobilières. Et la troisième, elle avait un contrat, donc là, ça va, à la limite, on pouvait faire avec. On a décidé de partir en recherche donc sur du particulier. On a renoncé aux agences dès le départ. Quand on a commencé à chercher chez les particuliers, on voyait bien que tous demandaient trois fois le montant du loyer pour avoir droit à un appartement, avoir droit aux visites. La plupart demandaient d'envoyer le dossier avant pour pas avoir des visites à vide, je suppose. Et du coup, on s'est dit que bah avec nos profils, on allait chercher dans le vide pendant un moment. Déjà qu'à Paris, c'est hyper concurrentiel. Et on a trouvé quelqu'un qui nous a passé son contrat en CDI, où il touchait environ 2 200 € par mois. Et on a changé de nom, donc le nom de ma coloc, qui même si elle avait son premier contrat, tant que le contrat soit validé, il fallait attendre. En plus, on ne savait pas si c'était un CDD ou un CDI qu'elle aurait, donc ça changeait aussi les choses. Mon coloc, qui est pigiste, lui aussi pareil, il a utilisé ce faux contrat où il a mis son nom. Donc ils avaient tous les deux exactement le même contrat, avec les mêmes payes, le même nombre de jours travaillés, etc. Et il y avait moi qui avais juste décidé de dire que j'étais en CDD dans une entreprise que j'ai quittée le 31 décembre 2017, mais dont j'ai changé les dates en mettant 31 décembre 2019, et donc changé aussi les dates des fiches de paie au mois et à l'année. On a commencé à envoyer des dossiers comme ça, et le tout premier dossier qu'on a envoyé quasiment pour un appartement à Saint-Denis, on a postulé, on a attendu, et un jour on a reçu un appel d'un de nos employeurs, vu qu'on est journaliste freelance, pour nous dire que un notaire les avait appelés et leur avait demandé si on travaillait bien chez eux. Donc on n'a pas su trop quoi dire, on leur a dit qu'on les rappelait. On a essayé de réfléchir à comment on pouvait se défendre et tout. Il y en a dans les trois, il y en a qui disaient qu'il fallait nier. Il y en a d'autres qui disaient qu'il fallait, enfin, maintenant, on était grillé, il fallait y aller à fond et essayer de convaincre le média de pas trop nous, en tout cas, pas nous blacklister pour les boulots futurs, déjà ça, même s'ils nous défendaient pas auprès du propriétaire qui était donc notaire, ça, c'était pas grave. Et on a décidé de dire aux médias, pas qu'on avait trafiqué avec des fiches de PAE, mais qu'on avait dit qu'on travaillait chez eux. Voilà, on leur a juste dit ça, et ils nous ont dit « Ok, ben, on va dire à ce notaire que effectivement vous travaillez chez nous, il n'y a pas de souci. On a déjà eu des demandes comme ça, il y a plein de pigistes qui n'arrivent pas à trouver des apparts, et on essaie de les aider. » Et du coup, ils ont rappelé le notaire en lui disant « Effectivement, il travaille bien chez nous. » Par contre, le notaire leur a demandé « D'accord, mais en CDD ou en CDI ?» Et là, ils ont répondu « En CDD. » Du coup, le notaire nous a rappelé, m'a laissé un message en me disant « Voilà, je voudrais qu'on discute. » Alors, ils voulaient discuter avec moi parce qu'ils comprenaient pas. En fait, mon faux contrat, c'est pour un emploi basé très loin de Paris, à 1000 km de Paris. Donc, ça paraissait pas cohérent pour lui, ce qui est effectivement un peu bizarre, que je veuille m'installer à Paris. Et les deux autres, ils voulaient savoir pourquoi ils avaient dit CDI quand ils avaient postulé, alors qu'il avait appelé la boîte pour dire un CDD. Donc, ça a été un grand moment de panique pour tout le monde. Ma future coloc, elle voulait plus qu'on cherche, elle voulait plus qu'on triche, elle voulait plus qu'on réponde à personne au téléphone. Enfin, elle a vraiment stressé là-dessus. Nous, on a décidé de juste pas donner suite. Enfin, on a arrêté de lui répondre. J'ai fini par lui envoyer un message le lendemain en lui disant « Je viens de tout recevoir, mais c'est bon, en fait, on a trouvé un appart. Vous embêtez pas pour nous. » Et au final, bah, il a plus donné de nouvelles, bien sûr. Par contre, ce que je sais, c'est que 3 mois après, son bien, il était toujours en location. Il faut savoir que son bien était super intéressant. Il y avait un bon loyer, il y avait vraiment de l'espace, il était super moderne, à Saint-Denis, à 3 minutes à pied du métro. Et pourtant, 3 mois après, il est encore dispo. Ça veut dire que c'est juste des gens qui essayent de trouver le candidat parfait qui va toucher 5 ou 6 fois le loyer. Enfin, le message qu'il m'a laissé, c'était beaucoup « on va discuter, je veux comprendre ça, je veux comprendre ci », enfin, très inquisiteur sur comment ça marche chez nous, comment on est payé, enfin... Au bout d'un moment, les mecs abusent, donc on a laissé tomber. Et on a continué à envoyer nos dossiers comme ça, sans donner de vrais papiers, qu'avec des faux papiers. La seule chose qui était vraie, c'était nos avis d'apposition, parce qu'ils datent de l'année d'avant, et donc c'était pas important qu'ils soient raccord avec le CDI. Il y a eu des moments où aussi on nous a demandé le contrat. Avant, on envoyait que nos fiches de paie. Après, on nous a demandé les contrats de CDI. Du coup, il a fallu commencer à trafiquer aussi les contrats de CDI. Mais bon, ça, à la limite, justement, on mettait que ça avait commencé en janvier 2018 et ça n'avait pas d'impact sur nos feuilles d'imposition, donc il n'y avait pas de souci.
Quelques temps après, Frédéric et ses colocs ont fini par trouver un logement. Et si vous vous posez la question, oui, ils l'ont bien obtenu avec leur dossier photoshopé. Cathy et Frédéric ne sont pas ce qu'on appelle des mauvais payeurs. S'ils trichent, ce n'est pas dans l'optique d'obtenir un logement qu'ils ne pourraient pas payer. Il n'empêche qu'ils ont quand même fraudé pour obtenir leur logement et que c'est illégal. Quand je leur ai demandé s'ils connaissaient ce à quoi ils s'exposaient si la supercherie était découverte, ils m'ont tous les deux avoué que non. Alors, pour en savoir plus, je suis allée voir Anne-Sophie Chevillard-Buisson, avocate en droit immobilier au barreau de Versailles. Et sur les conséquences judiciaires encourues par ces fraudeurs, elle est catégorique.
Alors le risque, c'est de le faire de manière grossière, que l'agence immobilière ou le bailleur voit immédiatement la supercherie et rejette tout simplement le dossier. Ça, c'est le premier risque. Le deuxième risque, c'est si le bailleur ne s'en aperçoit pas tout de suite et que le contrat de bail est conclu, le preneur se voit attribuer l'appartement, que le bailleur s'en rende compte après, notamment parce qu'il y a des impayés de loyer et qu'on se rend compte que les salaires ne sont pas ceux qui étaient mentionnés sur la fiche de paye ou alors qu'il n'y a même pas de contrat de travail, à ce moment-là, le bailleur peut demander au tribunal d'instance d'annuler purement et simplement le contrat de bail. Et parallèlement à ça, le bailleur peut aussi décider de déposer une plainte pénale. Et là, ça devient encore plus enquiquinant, puisque les risques, c'est 45 000 euros d'amende et 3 ans d'emprisonnement. Donc il y a un double risque, sur le plan civil, perdre l'appartement, ou ne pas avoir l'appartement, et sur le plan pénal, se retrouver convoqué auprès des services de police, et ensuite se retrouver devant le tribunal correctionnel.
Et est-ce que ça arrive souvent que ce type de sanction soit appliquée ?
Alors oui, ça n'a rien d'anecdotique. Régulièrement, les bailleurs se rendent compte, dans le cadre d'impayés, que le locataire leur a menti, qu'il n'est pas titulaire d'un contrat de travail, ou alors qu'il gagne beaucoup moins que ce qu'il a prétendu. On s'en rend compte aussi via les APL, via la CAF, quand la CAF écrit au bailleur pour lui dire « voilà, le locataire voudrait mettre en place un versement automatique des APL ». Et là, on se rend compte que les infos qui ont été fournies par le locataire n'étaient pas bonnes. Alors à ce moment-là, le locataire perd l'appartement et les APL. Et en plus, court le risque de se retrouver, alors peut-être pas en prison, tout dépend de son casier, mais à tout le moins devant le tribunal correctionnel. Donc oui, c'est assez fréquent.
Quels sont les risques pour les proches ou les employeurs qui aident les candidats à la location à falsifier leur dossier ?
Pour les proches et pour les employeurs, on est dans un contexte de complicité, puisqu'on est sur une infraction pénale. C'est l'article l'article 441-1 du code pénal, faux et usage de faux. L'employeur qui permet ce genre de choses, il est complice de l'infraction et par conséquent, il risque d'être poursuivi. Sauf que l'employeur, en plus, il est tenu à des obligations très très strictes vis-à-vis de l'administration, en termes de déclaration de ses salariés, vis-à-vis de l'URSSAF, vis-à-vis des caisses de sécu, des caisses de retraite. Donc si ça se trouve, derrière, elles vont toutes lui tomber dessus en disant « Attendez, votre salarié, là, vous avez déclaré que vous le payez 20 000 par an, et puis sur le bulletin de salaire que vous avez fait, vous avez mis 30 000 par an, ce qui n'est pas du tout la même chose, donc on va passer toute votre comptabilité en revue. » Donc il peut se prendre un contrôle fiscal. S'il a commis des malversations derrière, ça va ressortir à ce moment-là, donc il peut s'en prendre plein la tête. Et puis, pour les proches qui ont permis la falsification des pièces ou qui ont fait des faux témoignages pour permettre au candidat à la location d'obtenir son appartement, c'est pareil, il risque de se retrouver devant le tribunal correctionnel. Alors, la peine sera peut-être moindre que celle qui sera infligée à l'auteur. Il n'en reste pas moins que ce ne sera pas un très bon moment à vivre pour lui, surtout si le complice en question a déjà un casier. Là, ça devient franchement compliqué.
Évidemment, il est impossible de savoir combien de dossiers falsifiés tombent entre les mains des bailleurs, puisque beaucoup passent entre les mailles du filet. Mais pour en savoir un peu plus, je suis allée voir Jonathan, agent immobilier à Paris. Je lui ai demandé s'il pouvait estimer la proportion de fraude ou de tentative de fraude chez les candidats à la location.
On va dire sur 10 dossiers, il y en a un. Un dossier de qui est falsifié.
Et quelles sont les méthodes de falsification les plus courantes ?
Ah bah, fausse fiche de paye et faux avis d'imposition. Avec éventuellement même une fausse attestation d'employeur, avec des arrangements que les candidats ont avec certains employeurs, et donc du coup, ils s'arrangent entre eux, mais bon, après, en creusant un petit peu, on se rend compte que tout est faux.
Qu'est-ce que vous faites quand vous vous rendez compte qu'un dossier est falsifié ?
Qu'est-ce qu'on fait ? On le dit pas au locataire. On le dit, voilà, le dossier a été refusé, et puis après, si par contre le locataire est un petit peu insistant, à ce moment-là, on lui dit, le dossier a été refusé, c'est terminé, quoi. Parce que on s'est aperçu que le dossier était faux.
Alors que je continue de discuter avec Jonathan, il m'avoue quelque chose que je ne pensais pas entendre de la part d'un agent immobilier.
J'ai des gens autour de moi, des amis, qui parfois sont dans l'obligation de falsifier des dossiers parce que ils n'arrivent pas à trouver un logement et que les exigences des propriétaires sont telles que qu'ils sont obligés parfois d'essayer de trouver des solutions pour avoir l'appartement, donc du coup de peut-être d'augmenter un peu leur fiche de paye sans nécessairement falsifier l'avis d'imposition, mais augmenter un peu les fiches de paye en disant qu'il y a eu une augmentation qui a été faite entre l'année d'avant avec l'avis d'imposition et aujourd'hui.
Et est-ce que vous comprenez, d'une certaine manière, qu'il faille rentrer dans des cases assez strictes pour pouvoir trouver un appartement, être en CDI, etc., et que donc certaines personnes n'ont pas le choix que d'avoir recours à un dossier falsifié ?
Alors, c'est un peu le revers de la médaille, parce qu'en fait, si vous voulez, autant je peux comprendre que certaines personnes fassent de faux dossiers, parce que du coup, ils ont beaucoup de mal à trouver, autant aujourd'hui, les lois sont contre les propriétaires. Et quand vous avez une personne qui ne paye pas le loyer, il rentre en procédure et le propriétaire peut rester des années sans avoir touché de loyer. Donc les propriétaires sont de plus en plus regardants sur les dossiers. Et ce que je peux comprendre, étant donné que ils ont très peu de recours en cas de non-paiement de loyer, et parfois l'appartement est rendu aussi dans un état catastrophique. Donc ça fait double peine, et les propriétaires sont pas payés en loyer et l'appartement est rendu dans un état catastrophique.
Les bailleurs veulent des garanties toujours plus importantes pour se prémunir contre le risque d'impayé de loyer. Mais même dans le cas où ils trouvent le locataire idéal, ils ne peuvent pas être sûrs qu'il ne rencontrera pas des difficultés financières pour une raison ou pour une autre. Les papiers, justement, ce sont juste des papiers. Ils figent le temps à un instant T, mais ils ne peuvent certainement pas prédire l'avenir. Je tiens quand même à rappeler que les fraudeurs que j'ai interviewés pour ce reportage se trouvent dans une situation délicate mais largement tenable. Ils travaillent, même si c'est parfois de façon précaire, et ils ont un diplôme. Pour beaucoup de personnes, les prix du marché immobilier dans les grandes villes sont de plus en plus hors de portée. Et en matière de fraude, ils n'ont pas forcément un parent qui gagne bien sa vie, ni un faux employeur prêt à leur venir en aide. Il est toujours possible de faire une demande de logement social. Il existe également un autre service, le groupe Action Logement, qui propose une caution de paiement des loyers, bien utile si on n'a pas de garant. Sa filiale INLI met en ligne des logements intermédiaires, c'est-à-dire moins chers que le prix du marché, pour ceux qui ne peuvent pas prétendre à un logement social. Pour les étudiants, il existe également la caution locative étudiante. C'est une garantie de l'État qui permet de faciliter l'accès à un logement aux étudiants qui ont des revenus, mais pas de garant. Après, sur YouTube, il y a plein de tutos Photoshop, donc c'est à vous de voir.
Merci à Samia Bazzi pour ce sujet réalisé par Théo Boulanger. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller. Programme B @binge.audio pour nous écrire. Et à lundi pour un nouvel épisode.
Binge.
Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi ? Qui étaient ces disparus ? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau, au milieu de la Méditerranée ? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine, à partir du 27 mars 2024, sur toutes les applications de podcast.